11h05, merci d'être avec nous. Dans la prochaine demi-heure, on va parler avec Alain Corbeil, expert en bâtiment. C'est notre expert de ce lundi. Donc, si vous avez déjà des questions à lui poser, des interrogations concernant les rénovations, vous êtes là-dedans. Vous êtes peut-être chicané avec votre conjoint, votre conjointe. Parce qu'il y a ça aussi, hein, ça fait partie toujours de la problématique des rénovations. En plus de trouver un bon entrepreneur, peut-être vous êtes fait avoir, vous avez commencé vous-même vos rénos, vous êtes pris avec. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, que de bonnes questions. Vous pouvez déjà aller sur notre site Internet pour poser vos questions à Alain Corbeil, qui sera avec nous aux alentours de 11h35. Et on l'a vu dans les dernières semaines, puis je dirais même dans les 2-3 dernières années, plusieurs soubresauts à la météo, et ça commence certainement à inquiéter plusieurs personnes. Bon, la semaine dernière, on a eu une tornade dans les Laurentides, il y a eu des cas de canicule en Europe. On en a eu ici aussi l'an dernier. On est dans la troisième semaine de canicule. Il y a des pluies fortes, des inondations. Un mois de mai qui a été très, très froid cet hiver. C'est peut-être l'impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de neige. On parlait beaucoup de déneiger les toits. Il y a eu des toits, d'ailleurs, qui se sont effondrés. Qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que les changements climatiques, ça vous inquiète? Est-ce que c'est une préoccupation? On va en parler avec Gilles Brien, biométéorologue et auteur du livre « Ce qu'on ne vous ne dit pas sur les changements climatiques ». Bonjour, Gilles.
Bonjour, Catherine.
Est-ce que c'est une impression où... peut-être qu'on en parle plus, mais je crois qu'on dirait qu'on en a plus, des soubresauts, des tornades, des inondations.
Oui, c'est pas juste dans l'actualité qu'on voit les changements climatiques se manifester. On le voit dans le ciel, on le voit dans la faune, dans la flore. Si vous parlez à un cultivateur, vous allez avoir des commentaires dans ce sens-là. Si vous parlez à quelqu'un qui pratique des sports d'été, la baignade ou la planche à voile, encore là, vous allez avoir d'autres commentaires. Soit qu'on a plus d'orages depuis quelques années, soit qu'il y a moins de vent, les températures sont plus élevées, donc c'est plus difficile d'un fois pratiquer certains types de sports. Parlez à des golfeurs qui vont en Floride. Vous savez, la pelouse, le gazon est très différent dans les pays un peu plus tropicaux qu'au Québec. Le changement climatique a ceci de particulier que ça affecte toutes les dimensions de la vie. Les enjeux scientifiques, on en a connu depuis une cinquantaine d'années. On va fêter les 50 ans de l'homme sur la Lune cette semaine. Mm-hmm. Mais il y a eu aussi l'informatique qui a été un enjeu scientifique dans les dernières 20 ans. Il y a eu aussi les biotechnologies, tout ça. Mais le changement climatique touche tellement notre façon de vivre que c'est devenu pratiquement une religion. Parce qu'on parle de l'économie, on parle du territoire, parce que les masses d'air traversent des frontières sans problème. L'air que vous respirez aujourd'hui, bien, c'est de l'air qui est passé sur le Japon il y a une dizaine de jours. Donc, les continents s'échangent, la pollution de tous les autres pays. Et la télévision aussi est un vecteur qui fait en sorte que, la météo, on en a... présentement, pas uniquement le spectacle local chez vous, mais vous êtes témoin du climat partout, climat survolté en France, en Australie, en Russie. Même cette semaine, on a des records de température présentement qui atteignent 20 à 30 degrés dans l'Arctique. Ça, c'est tout nouveau.
L'Arctique?
Eh oui. Là, on est au nord de l'Arctique. Moi, j'ai passé près de 8 ans dans les régions de l'Arctique du Canada. Là, au nord du cercle polaire, c'est là où vous ne voyez pas le soleil pendant 6 mois par année. Pendant l'été, c'est 6 mois de clarté. Je me souviens, les enfants avaient de la misère à dormir. Il fallait leur dire, allez vous coucher. Là. Il est minuit, 1h du matin, mais il fait clair à l'extérieur.
C'est difficile à comprendre, oui.
Ben oui, puis c'est les premières régions qui sont touchées par le réchauffement global. Il est 3 fois plus accentué dans les régions du nord du Canada qu'ailleurs, un peu plus au sud. Donc, les Américains qui sont plus sceptiques sur le changement climatique, c'est pas étonnant, ils sont peut-être moins touchés, parce que les recherches ont montré que si vous avez subi des intempéries, si vous avez été frappé par la foudre ou si vous avez connu des inondations ou des problèmes avec les orages ou le froid, la glace, eh bien, vous allez être beaucoup plus sensibilisé à la question du changement climatique et beaucoup plus favorable aussi aux mesures d'atténuation, d'adaptation que si vous n'aviez jamais été frappé par la météo.
Mais justement, d'être frappé par la météo, et là, je lisais d'ailleurs un article intéressant dans la presse cette fin de semaine, on parle de météo de l'extrême. C'est un terme qui fait peur pour plusieurs personnes, puis on le voit, puis peut-être que c'est peut-être plus médiatisé que ce l'était aussi. Donc, ça vient peut-être chercher quelque chose en nous également qui est peut-être plus grand.
Ben oui, on cherche toujours le côté sensationnel des choses, que ce soit dans les médias ou dans notre vie. On est attiré par ce qu'il y a vraiment d'original, ce qui sort de l'ordinaire. Et avec la météo, on est gâté parce que là, les températures nous donnent des records de froid et de chaleur. Parce que le réchauffement global, c'est pas une ligne continue vers le haut avec un réchauffement très doux des températures. Il y a encore des records de froid. Il y a des régions, même du Québec, qui ont connu en mars dernier, même au courant du mois de mai, on a eu des records de froid à Sept-Îles. Moins 18 degrés, moins 20 degrés à la Grande Baleine, là, dans le secteur de la Baie-James. Vous êtes au mois de mai, là. Donc, réchauffement climatique, oui, mais c'est plutôt comme en dentis que ça va se faire, avec des records de froid, encore des records de chaleur, mais vraiment vers un futur qui sera plus chaud, plus tropical.
Donc, ça veut dire plus de tornades, plus de tempêtes? Ça peut ressembler à quoi pour le futur?
Évidemment, pas nécessairement, parce que vous savez, là, la surenchère au sujet du climat fait en sorte que beaucoup de gens trouvent leur intérêt. Je parle des mouvements écologistes, des politiciens aussi, même les vendeurs de voitures là, qui vont essayer de vous vendre un VUS, là, toujours planté dans un décor naturel avec un ours, des arbres autour, pour vous donner l'impression que ce véhicule-là ne libère pas de gaz à effet de serre, alors que c'est complètement farfelu. Mais donc, tout le monde prend le train du changement climatique et va l'utiliser pour combler ses intérêts. Les politiciens qui sont élus sur 3-4 ans vont souvent frapper du tambour là, qu'il est urgent d'agir, mais ces gens-là ne planifient pas sur le long terme. Donc, on a des exemples à tous les jours dans les journaux, dans le ciel, et que la météo, bien, on va tomber de plus en plus dans ce qu'il y a d'extrême. Écoutez, l'année dernière, le 2 juillet à Montréal, on a eu 37 degrés au centre-ville. On ne parle pas de l'humidité, là, je parle de température au thermomètre sec, là. 37 degrés, c'est la température du corps humain. Alors, à 37 degrés, votre corps ne peut pas se rafraîchir. Le seul moyen de votre corps de se rafraîchir, c'est de transpirer. Quand vous commencez à avoir de la sueur qui va s'évaporer, bien, ça va rafraîchir votre corps. Mais à 37 degrés, c'est impossible. Alors, on peut se réchauffer en hiver quand il fait froid. Vous pouvez porter des vêtements, vous pouvez bouger, vous pouvez faire du feu aussi. Mais en été, quand il fait très chaud, il y a uniquement la climatisation qui est là pour vous aider. Puis c'est pas tout le monde qui est climatisé au Québec.
Bien, c'est pas tout le monde qui est climatisé. On a tous des petits ventilateurs, mais ça peut avoir des conséquences, je pense, aux personnes âgées, aux personnes également qui ont des problèmes respiratoires. Il y a même eu plusieurs morts l'an dernier, d'ailleurs. On en a dénombré plus de 80. On se dit, on est au Québec et on décède de chaleur.
Oui, ça, c'est tout nouveau. Hein? On a toujours l'impression que c'est le froid qui nous a côtoyés là, pendant 400 ans au Québec. D'ailleurs, on a des habitudes. On a construit nos maisons avec un toit en pente pour capable de supporter des bonnes charges de neige, les lucarnes aussi aux fenêtres, notre façon de nous vêtir, notre façon de travailler. Tout ça, ça dépend du climat. Vous savez, les anciens manteaux d'hiver là, longs là, qui vont descendre jusqu'aux genoux. En France, à Paris, on appelait ça les Canadiennes. Les tuques, les mitaines, c'est inventé ici au Québec. La motoneige, les systèmes de déneigement là, en hiver, les déneigeuses, tout ça, c'est des inventions québécoises parce que le climat est un fantastique stimulant pour l'innovation, la débrouillardise.
Et si on parle des climato-sceptiques, on dirait que c'est aussi un sujet à la mode. Parce avec l'arrivée de Donald Trump, à l'arrivée de plusieurs républicains, les réseaux sociaux aussi... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a encore des personnes qui croient que le réchauffement, les changements climatiques, ça n'existe pas, que c'est pas dû à l'homme?
Ben, c'est la perception humaine hein, des choses. Les gens, quand vous êtes face à un problème dans votre vie, on cherche un coupable, on cherche toujours un responsable. Il faut que ce soit quelque chose de visible. Généralement, dans le cas du climat, c'est les nuages au-dessus de votre tête. Beaucoup de gens pensent que les traînées de condensation, par exemple, laissées par les avions, qui est juste la vapeur d'eau qui est émise là, par les moteurs, eh bien, tout ça, c'est dû à un complot international pour essayer peut-être de stériliser de la population en injectant en haute atmosphère des gaz qui vont influencer la biologie humaine. Mais tout ça, c'est farfelu. Mais il y a des milliers de personnes qui y croient définitivement. Le changement climatique, comme j'ai mentionné, ça touche aussi votre façon de vivre. The American way of life, comme disent les Américains. Si on a une taxe sur le carbone, bien là, quand vous êtes le plus grand émetteur de carbone au monde, ça va toucher votre façon de consommer, votre façon de conduire.
Et quand ça va dans nos poches, généralement, c'est plus là qu'on réagit aussi.
Ben oui. Puis là, présentement, il y a beaucoup de controverses autour de la taxe au carbone. On croyait qu'on allait atteindre un prix de 1 000 la tonne de carbone là, il y a 3-4 ans quand la bourse carbone a été inaugurée. Mais en réalité, ça stagne à 10-15 ici au Canada et en Europe avec. Donc, les gens ont plutôt les bras croisés. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, je parle surtout des compagnies, des industries qui sont très lentes là, à réagir. Le fonds de pension des Québécois aussi, le bas de laine, Ukraine, la caisse de dépôt. Vous avez 16 milliards d'investissements dans le pétrole, mais ces gens-là, bon, on ne se départit pas de ces actions facilement comme ça. On attend de voir quel est le mouvement dans le milieu des affaires et dans la population. L'acceptabilité sociale aussi est en train de prendre de l'ampleur. Là, les gens ne sont pas prêts à accueillir un oléoduc, là, un pipeline qu'on dit, non, au Québec. Ça déchire beaucoup le pays présentement, là.
On va continuer à en parler parce que je sens que le sujet est chaud pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Gilles Brien, 514-790-9850 si vous voulez participer à la discussion ou encore sans frais de partout au Québec, que vous soyez en Outaouais ou 147 en Outaouais, ça a beaucoup brassé également l'an dernier puis même dans les derniers jours, et ou encore en Estrie au 177 1-866-790-9850. Est-ce que le changement climatique vous inquiète? Parce qu'effectivement, on l'a vu dans les dernières semaines ici au Québec, je dis les dernières semaines, mais dans la dernière année, tellement de changements, tellement de soubresauts à la météo qu'on se demande, OK, mais il me semble que ça n'arrivait pas il y a 5 ans. Il me semble qu'il y a 10 ans non plus, on n'avait pas ça. Autant d'orages, autant de tornades, de phénomènes météo, des coups de foudre comme on a vécu la semaine dernière. Moi, je vous avoue, l'orage de la semaine dernière, j'étais chez moi, Gilles Brien, puis j'étais pas très rassurée, comme plusieurs Québécois. Et il y a eu même une tornade, bon, à Saint-Roch-de-la-Chigan.
Ben oui, 15 000 coups de foudre là, dans la même journée, là, jeudi dernier, avec la première ligne d'orage qui a traversé le Québec. Disons qu'on a de l'activité orageuse qui est observée partout dans le monde qui semble augmenter. Beaucoup d'études ont montré que si vous augmentez la température de l'air de 1 degré, vous allez accroître l'activité orageuse, c'est-à-dire le nombre de coups de foudre là, de 6 à 8. Donc, si on se dirige vers une hausse de 5 degrés là, au Québec dans à peu près 40 ans, ben, ça veut dire que vous allez retrouver 40 % plus de journées avec l'orage en été. Il y a des conséquences avec ça.
Des conséquences, et je pense que ça inquiète quelques personnes. On va prendre des appels. Régent est avec nous, bonjour.
Taxophone, mais qu'on...
Oui, bonjour Régent, vous êtes à la radio?
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben, ça va très bien. Est-ce que ça vous inquiète, tous ces changements à la météo?
Ben oui et non, dans le sens que oui, c'est inquiétant, mais le problème, c'est qu'ils pointent toujours la population. Mais la réalité, c'est que les dirigeants de ce pays, de ce monde-là, ben, ils font tous des échanges commerciaux partout à travers le monde. Ça pollue les océans, ça pollue nos eaux. Puis après ça, ils nous pointent du doigt comme on est des méchants pollueurs. Moi, personnellement, même que ce soit vraiment grave au point qu'ils disent, là, en ce moment, là, moi, je trouve qu'ils exagèrent un peu la patente pour mettre des taxes, puis, les taxes du carbone, puis, le jour où ça va être si grave, ils vont arrêter les échanges commerciaux. Ça va être la première affaire qu'ils vont faire.
Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec Régent?
Ben oui,
est-ce qu'on exagère un peu trop?
Oui, parce que l'alarmisme des mouvements écologistes, des politiciens et de tous ceux qui ont des intérêts envers les changements climatiques, ben, présentement, la peur, là, c'est l'ingrédient secret, hein, l'ingrédient de la recette. Et la culpabilité aussi. Hein, on ne prend plus l'avion maintenant parce que vous allez libérer trop de gaz à effet de serre. Mais en réalité, si vous prenez l'avion pour aller assister à une conférence à laquelle des décisions vont être prises, bien, ça vaut la peine. Il s'est passé la même chose avec l'invention du téléphone au début du siècle. Les gens disaient que le téléphone est réservé uniquement aux conversations importantes. Il n'y a pas question de parler de niaiseries là, ou de choses qui sont non significatives. Mais finalement, c'est un moyen de consommation, c'est un moyen de communication. Le CO2, il coule dans nos veines. Vous savez, le gaz carbonique, on en rejette 2 kilos à peu près dans notre respiration, chaque humain, par jour. Donc, le CO2, on ne peut pas faire la guerre au CO2. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Par contre, son utilisation, c'est là-dessus qu'on devrait questionner là, les usages. Donc, ce n'est pas vraiment de la pollution. Il y a une dérive du climat autour du changement climatique qui fait qu'on met tout dans le même sac. Souvent, les mouvements écologistes vont vous dire, bon, les tempêtes augmentent, des ouragans, les tornades, c'est faux. On met souvent dans le même sac là, que les séismes aussi augmentent partout. On a vu 3 séismes cette semaine, 4.0 au Québec, un autre séisme, en fait 2 séismes en Californie. Donc, les tremblements de terre, ça n'a rien à voir là, avec l'atmosphère, mais avec la peur, avec la culpabilité, ben, on est facile à être sensibilisé.
Et selon les époques aussi, jeunes, on parlait de la couche d'ozone, donc on me disait non, on ne prend pas le fixatif en bonbonne. Ouais. Ça, je me souviens de ça. Après, on a eu les pluies acides aussi.
Ben oui, puis des problèmes qu'on a réglés du côté des CFC. En 87, à Montréal, il y a eu le protocole, c'est-à-dire une entente entre une centaine de pays pour bannir les produits qui détruisaient la couche d'ozone. Ces produits-là ont été interdits. Asie, sauf peut-être en Chine, là, où il y a des produits équivalents. Là. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une couche d'ozone qui est en train de se réparer. Hein. Vous savez que les modélisations des ordinateurs ont montré que d'ici 20 ans, on va retrouver le niveau qu'on avait dans les années 80 de la couche d'ozone. Donc, l'action des humains a porté fruit. La même chose s'est produite aussi pour les pluies acides. Dans les années 80, beaucoup de lacs de l'Outaouais, de l'ouest du Québec, étaient vraiment acidifiés à cause des retombées des centrales thermiques, centrales au charbon, surtout utilisées dans le bassin des Grands Lacs. La pollution des Américains, vous savez, on l'importe à 40 % à peu près au Québec. Hein? Donc, on s'est assis avec les Américains. Les protocoles ont été changés, les cheminées aussi, les usines, les procédés de fabrication. Et on a réglé le problème, là, en fait, en grande partie, en ce qui concerne l'acidification des lacs. Changement climatique, c'est la même chose, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail pour régler le problème. La première chose, par contre, qu'il faut faire, c'est changer le discours sur le changement climatique, parce qu'il y a énormément d'inquiétudes, surtout chez les jeunes. Et c'est les jeunes qui sont le vecteur de changement. Hein. Si le monde va changer dans les prochaines années, c'est à cause des moins de 30 ans. Faut pas l'oublier. Et ces gens-là, présentement, ont des idées fantastiques. Ils prennent la rue pour passer le message. Mais malheureusement, les politiciens puis le
public...
Il faut les écouter, voilà.
Ouais. Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, est-ce que vous êtes inquiet, vous, par tous ces changements climatiques?
Oui, je suis inquiet. Comme je disais tantôt, tous les scientifiques de la Terre sont quasiment d'accord et unanimes que d'ici les 40 prochaines années, si ils n'ont fait rien, la Terre va augmenter de 1 ou de 2 degrés et ça va être catastrophique pour tout le monde sur la Terre. Là. Il paraîtrait que les endroits où l'on gèle, on va avoir chaud, les endroits où on a chaud, on va geler, il va y avoir de la sécheresse, des inondations, un peu de tout ça. Là.
Oui, et ça, c'est le problème hein, pour convaincre les gens, là, parce que 1 ou 2 degrés, on se dit, bof, c'est pas beaucoup. Hein,
pas
les Québécois,
chose,
on connaît des moins 40 en hiver, 40 degrés avec l'humidité en été, ça fait qu'on se dit, bof, au final, 1 degré de plus ou moins, on va payer moins de chauffage. Alors, c'est une façon de voir les choses, mais regardez la différence de température entre Montréal et Québec. Vous avez à peu près 2 degrés de différence. Mais 2 degrés, c'est suffisant là, pour réduire la période des baignades à Québec d'à peu près 2-3 semaines. Il y a bien moins de piscines extérieure à Québec, il y en a à Montréal en même proportion. C'est pas le même climat. Hein. Les gens qui ont habité Québec et se retrouvent à Montréal vont dire c'est chaud, humide. Mais pourtant, en termes de température annuelle, une différence de 2-3 degrés. Alors, si je vous dis que votre région va connaître un réchauffement de 3-4 degrés d'ici 2050, ben, c'est comme si je prenais votre maison puis je l'amenais au sud de la Pennsylvanie. C'est énorme en changement de température.
On va prendre d'autres appels. Rock, bonjour. Est-ce que vous êtes inquiet, vous?
Oh oui, je t'inquiète. Ça fait longtemps que je t'inquiète pour ça, parce que je m'en rappelle dans les années 80, quand on avait les pluies acides, puis tout ça. Puis là, aux États-Unis, ben ils étaient venus à bout. OK, on va mettre des filtres après nos usines au charbon. Ils en ont fermé. Il y avait pas bien le choix, parce que les autres aussi étaient pris avec le problème de l'acidité dans l'eau, puis tout ça. Puis... comme on disait, là, plus que la température va se réchauffer, oui, il va faire beau puis chaud, mais oui, il va y avoir des orages puis des événements fantastiques aussi, à l'extrême, là, comme on dit. Fait que on est bien mal parti comme on est. Mettons que je rentrerais dans une solution, là, je me dirais les compagnies d'aviation ne voudront jamais, là, mais mettons qu'on commencerait par on va y aller drastiquement, la moitié des vols. Je pense qu'en un an, on verrait beaucoup de bonnes choses arriver avec ça. Parce que on sait que les avions vont porter la pollution dans la couche d'ozone, très haut. Fait que ça aussi, ça ne l'aide pas à se refaire.
Je ne suis pas sûr que les compagnies d'aviation seraient d'accord avec votre solution, Rock. Merci, mais d'arrêter complètement les vols. Puis je sais que c'est une des solutions qui est envisagée par plusieurs écologistes également, donc de ne pas prendre l'avion, de prendre que des moyens de transport verts le plus possible aussi.
Oui, mais disons que la tendance est très lourde. Hein? Vous allez avoir deux fois plus d'aéroports dans le monde d'ici une vingtaine d'années. Partout dans le monde, on construit des avions, des pistes d'atterrissage aussi. Ça explose, là, le transport aérien. Mais... bon, c'est une contribution assez faible quand même au réchauffement global. On parle de 2-3 % de l'industrie aérienne. Par contre, les humains qui continuent à manger de la viande, vous savez, un cheeseburger pour produire juste un hamburger là, au fromage, là, ben, c'est l'équivalent d'à peu près ce qu'un VUS va libérer en gaz à effet de serre sur 15 km. Donc, si les gens changeaient simplement leur type d'alimentation, mettons, on passait aux légumineuses, là, vous abandonnez la viande, ben, vous allez régler le problème du climat à l'échelle du globe. juste dans votre assiette. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain, mais on voit présentement là de plus en plus les insectes qui vont remplacer les protéines dans nos assiettes. Vous savez qu'il y a 2 milliards d'habitants de la planète qui mangent quotidiennement des insectes. Là, je sais qu'en en Amérique du Nord, ben c'est pas encore dans nos habitudes, les flambées de fourmis, c'est pas encore vraiment au menu de Ricardo.
Non.
Mais les mentalités changent. Oui. On l'a vu dans les dernières années avec les nouveaux produits qui sont arrivés.
Je pense qu'on est plus prêt quand même à ça aussi parce qu'on voit les réactions et on voit qu'est-ce qui se passe. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'il faut y aller petit pas aussi, selon ce qu'on est capable de faire, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de changer de voiture non plus. C'est une question financière également, mais dans l'alimentation, ça je pense qu'on peut le faire tranquillement.
Il faut surtout regarder à long terme, parce que si on regarde vraiment toujours à court terme, ben là, c'est comme un fumeur qui décide d'arrêter de fumer, ou en fait, quelqu'un qui va tomber. L'exemple qu'on prend souvent là, sur les changements climatiques, comme l'humanité est accro à la nicotine, ben ça va bien jusqu'à temps que votre médecin vous dise « vous avez un problème ». Là, vous avez des radiographies qui montrent des tumeurs ou vous êtes malade. Bien, c'est là que vous prenez les décisions pour changer, mais souvent, il est trop tard.
Oui. Et si on regarde la semaine, parce qu'il va faire encore chaud à Montréal, et je sais que les gens, quand on regarde la météo, peut-être qu'on ne regarde pas comme il faut, là, je ne sais pas. Moi, je regardais toujours les maximums.
Ben oui, tout le monde regarde les températures. Cette semaine, ça va friser le 30 degrés. Là. Aujourd'hui, peut-être un petit peu plus frais. Là. Mais demain, et mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi, c'est 30-31. Ce qu'on regarde surtout pas, c'est les minimums. Et vous savez que le changement climatique, c'est pas tellement le maximum le jour qui augmente, c'est la nuit, les minimums. Ici, les records de froid à Montréal qu'on avait là, dans les années 70, moins 35, moins 37, on n'en voit plus. Maintenant, les minimums, les plus froids qu'on peut voir à Montréal, c'est moins 27, moins 28 en hiver. Disons que le changement a été beaucoup plus drastique la nuit que le jour, parce qu'il y a des maximums de 30-31. Bon, on connaît ça depuis très longtemps au Québec. Donc, des minimums de 20-21 degrés, ça veut dire que votre corps ne pourra pas se rafraîchir. Votre maison va garder sa chaleur accumulée pendant le jour. Et la nuit, si ce n'est pas climatisé, ben, vous allez avoir beaucoup de difficultés à dormir. Et les canicules, c'est ça que qui est particulier, c'est pas tellement le jour que la canicule va tuer, c'est la nuit. On le voit dans les hôpitaux, dans les centres de soins prolongés. Vous n'avez pas de moyens, là, si vous êtes dans votre lit, pour vous rafraîchir. Il n'y a pas de vent, vous ne pouvez pas vous hydrater. C'est vraiment là qu'on voit les problèmes surgir.
Il va falloir surveiller aussi les personnes âgées parce qu'on le répète souvent, les conseils, hein, puis on voit les reportages également à la télé qu'il y a de la canicule, puis souvent on se moque un peu, mais c'est quand même très important, puis on le voit à chaque année, il y a des décès, il y a des gens problématiques également, comme je le mentionnais tantôt.
Ça, Catherine, vous touchez un point très important parce que depuis quelques années, on est en train d'étudier les conséquences, les impacts là, d'une tornade, d'une intempérie, d'une inondation. On sait que ça laisse beaucoup de détresse psychologique, beaucoup de désespoir quand vous êtes frappé par, que ça soit une tempête épouvantable ou que ça soit une crise du verglas. L'Université McGill a étudié, par exemple, dans le Triangle Noir, là, où on a connu beaucoup de verglas en 98. Vous savez que les femmes enceintes qui ont couché dans ce coin-là avait subi un stress là, et assez important pour que chez leurs enfants, on a vu des traces de ce stress-là là, en termes de quotient intellectuel, en termes de problèmes de langage, tout ça. Donc, on l'étudie présentement et une donnée qu'on a trouvée très intéressante, la conclusion, c'est que c'est l'entraide qui change beaucoup les choses. Le facteur d'entraide dans le cas des inondations, dans le cas d'aller donner un coup de main à votre voisin, c'est vraiment ça qui fait que en termes de collectivité, on va pas mal mieux passer à travers que si on était isolé.
Et justement, aujourd'hui, il fait beau, vous avez une piscine. Invitez-donc la personne qui n'en a pas. Pourquoi pas? On se moque, on rit de ça des fois que la visite arrive, mais c'est peut-être une solution également. Gilles Brier, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir à l'émission. Passez un bel été. On aura peut-être l'occasion de se reparler d'ici la fin de l'été. Au retour, Alain Corbeil, notre expert de ce lundi qui va nous parler de Renault. Alors, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire dès maintenant. 514-790-9850 et de partout au Québec, 1-866-790-9850.